France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie-Marine. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Ça commence tout de suite. Installez-vous. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une sanction exemplaire réclamée à l'encontre du procureur de Limoges.
Oui, le Conseil supérieur de la magistrature estime que Baptiste Porcher a tenu des propos sexistes, dégradants à l'encontre de plusieurs collaboratrices. Le CSM demande donc, et c'est rare, le retrait de sa fonction de procureur. On y revient au début de ce journal.
Et les autres titres, Céline ?
Jusqu'où faudra-t-il aller pour aider l'Ukraine ? Dans sa guerre face à la Russie, les députés débattent en ce moment. On prendra la direction de l'Assemblée nationale. De son côté, Moscou mène avec Pékin et Téhéran des manœuvres militaires au large de l'Iran. On verra que c'est un message adressé aux Occidentaux. On parlera aussi de ce collectif qui veut défendre l'école publique et pourquoi pas retirer des financements aux établissements privés. On parlera aussi des mariages en forte hausse en 2023 et des revenus du streaming qui plafonnent. Les Français ne sont visiblement pas très motivés à l'idée de payer un abonnement de musique en ligne.
Et on en parlera avec notre invité tout à l'heure, c'est Jean-Philippe Thiellet, il est président du Centre National de la Musique.
Et puis une œuvre pop pour célébrer les valeurs olympiques. À la fin de ce journal, on ira découvrir la tapisserie créée par Marjane Satrapi pour les JO de Paris.
Au sommaire du 18-20 ce soir, doit-on s'inquiéter des ingérences russes dans la campagne européenne et même au-delà ? Est-ce que la France est particulièrement visés. Jusqu'à quel point sommes-nous déjà cernés par les attaques et la désinformation ? On verra ça avec le premier invité de ce soir. Nous sommes aussi en Indonésie, où une petite île menacée par la montée des eaux s'en prend au plus grand cimentier du monde. Vous verrez qu'à Prague, les habitants veulent une rue Frodon, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Franck Madvon, dans Le Monde à 18h50, nous explique l'ambivalence américaine au Proche-Orient. Caroline Gillet a trouvé une nouvelle agence européenne. Et puis dans Le Téléphone sonne, c'est en deuxième heure. Il y a Pierre Moscovici ce soir pour vos questions. C'est le premier président de la Cour des comptes avec un nouveau rapport qui parle d'économie drastique. Nous sommes, dit-il, au pied du mur. Vos questions au standard dès maintenant.
France Inter.
Des propos graveleux, des blagues sexistes, un comportement ouvertement misogyne.
Il n'aura fallu que quelques mois après sa prise de fonction en 2020 pour que tombent les premières alertes. Plusieurs femmes, des collègues, se sont plaintes de l'attitude de Baptiste Porcher, le procureur de Limoges. Il était donc visé par une enquête disciplinaire et le Conseil supérieur de la magistrature vient de rendre sa décision. Le CSM demande le retrait de la fonction de procureur. Bonsoir Jean-Philippe Deniaux.
Bonsoir Céline.
Alors on va d'abord revenir sur les faits. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ?
Alors, très clairement, un comportement général avec un enchaînement de blagues douteuses, de propos sexistes et dégradants tenus à l'égard des femmes du tribunal de Limoges et de Laon, où il était en poste auparavant, et parfois même des regards déplacés sur leur corps. À l'audience, Baptiste Porcher en avait admis une bonne partie. Il avait expliqué que c'était de l'humour noir un peu grivois qu'il regrettait d'avoir blessé et qu'il s'était mis en retrait de toute forme d'humour aujourd'hui. Mais le CSM estime que l'impact et la répétition de son comportement prouve qu'il a perdu ses repères déontologiques, qu'il a ignoré le malaise et la souffrance suscités dans la communauté judiciaire et que Baptiste Porcher a une absence totale de remise en cause, justifiant donc cette double sanction, retrait de la fonction de procureur et déplacement d'office.
Et maintenant, que va-t-il se passer pour lui ?
Alors, si le ministre de la Justice valide cet avis du CSM, Baptiste Porcher restera magistrat mais n'aura pas de poste d'encadrement. Certainement sera-t-il avocat général au sein d'une autre cour d'appel, mais ce qui est intéressant dans cette sanction disciplinaire, c'est que le CSM souligne ici l'atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme un avertissement pour tous les magistrats, de telles situations seront désormais clairement poursuivies et sanctionnées. D'ailleurs, le mois prochain, c'est un vice-président d'un tribunal du Sud-Est qui comparaît pour des faits similaires.
Merci Jean-Philippe Deniaux, service police-justice de France Inter. Dans l'actualité judiciaire également ce soir, une héritière de 91 ans et son fils, médecin hospitalier, ont été reconnus coupables de fraude fiscale et condamnés chacun à 2 ans de prison avec sursis et 1,75 million d'euros d'amende. Leur condamnation fait suite à l'affaire des Dubai Papers. Révélation de plusieurs médias, dont Radio France, sur un vaste système d'évasion fiscale. Il leur était reproché d'avoir caché la fortune familiale dans des établissements bancaires en Suisse, puis via une société écran établie aux Émirats Arabes Unis.
Une victoire de Moscou aurait des risques concrets, tangibles sur la vie quotidienne des Français.
Et voilà la mise en garde de Gabriel Attal tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre ouvrait le débat parlementaire sur le soutien de la France à l'Ukraine. Débat toujours en cours, qui devrait s'achever ce soir sur un vote des députés. Alors, officiellement, Officiellement, il s'agit de se prononcer sur l'accord bilatéral conclu il y a un mois entre Kiev et Paris, qui comprend un renforcement de la coopération militaire. Mais dans les faits, ce sont les récentes déclarations d'Emmanuel Macron qui sont au cœur des débats. Le chef de l'État qui avait dit ne pas exclure l'envoi de troupes au sol contre l'avis de ses partenaires européens. Propos dénoncés tout à l'heure au sein de l'hémicycle par Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Je le dis avec gravité, la situation ne saurait s'accommoder d'équipés solitaires. Des effets de manche et des tergiversations dont le président Macron est coutumier. Évoqué il y a quelques mois le souci de ne pas humilier la Russie, puis aujourd'hui la possibilité d'engager des forces combattantes que les Ukrainiens eux-mêmes ne nous demandent pas. Ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est être inconstant, pour ne pas dire inconséquent. Et cela est grave et désinvolte. Le président, en définitive, moins inquiété Vladimir Poutine que nos alliés eux-mêmes, qui se sont désolidarisés de ses propos, et les Français qui les ont largement réprouvés. Je crois nécessaire, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez aujourd'hui, devant la représentation nationale, la clarté de dire que cet accord ne prévoit en aucune manière l'envoi de troupes combattantes. Qui croirions-nous être pour ne pas voir les périls du moment ? La seule chose que nous voulons, à travers cet accord que nous soutenons, c'est que tout soit entrepris, sans que nous-mêmes n'entrions en guerre, pour qu'en Ukraine, en Europe, en Russie même, où le courage et l'espoir ont pour toujours le visage d'Alexandre Navalny, la paix est le dernier mot.
Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le PS qui devrait voter pour l'accord sur le soutien à l'Ukraine, tout comme les élus Les Républicains. En revanche, la France insoumise et le Parti communiste devraient voter contre. Le Rassemblement national, lui, a prévu de s'abstenir. La Russie a déclenché une crise géopolitique sans doute la plus dramatique de ces dernières années. La guerre a aggravé un choc inflationniste subi par les Français. Voilà ce que vient de dire à l'instant Marine Le Pen, qui s'exprime en ce moment à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le conflit lui-même, la journée a été marquée par cette attaque de volontaires russes pro-Ukraine. Ils se sont infiltrés en Russie et disent avoir pris le contrôle d'un village frontalier. Moscou assure avoir repoussé cette incursion. L'Ukraine a en outre multiplié les attaques de drones, contraignant la ville russe de Kursk à fermer ses écoles jusqu'à la fin de la semaine. Ils transportent du riz, de la farine, des conserves. Au total, 200 tonnes d'aide destinées à la population. Le bateau humanitaire de l'ONG espagnol Open Arms fait route vers Gaza. Il est parti de Chypre ce matin. C'est la première fois depuis le début de la guerre que les Gazaouis devraient recevoir de l'aide par la voie maritime. On y revient tout à l'heure dans le journal de 19h. La guerre à Gaza qui occasionne des tensions dans toute la région avec les attaques régulières des Houthis sur les navires marchands. Alors pour protéger leurs intérêts dans la zone, la Chine, l'Iran et la Russie ont décidé de faire alliance, de mener des manœuvres militaires dans le golfe d'Oman. Manière aussi de rappeler au monde les liens qui unissent Moscou, Téhéran et Pékin. Sébastien Berriot, vous êtes en Chine.
Avec ces manœuvres, le message adressé aux Occidentaux est clair. Si la Chine affiche officiellement une position de neutralité sur l'Ukraine, Pékin n'a nullement l'intention de renoncer à sa coopération avec les Russes, et y compris sur le plan militaire. Illustration donc depuis hier dans le golfe d'Oman, le destroyer chinois lance-missile Urumqi et la frégate lance-missile Lini sont déployés aux côtés d'un croiseur et d'une frégate russe, les deux marines côte à côte, comme des pays alliés. Mais au-delà de la coopération avec Moscou, ces manœuvres ont aussi une importance vitale pour la Chine, qui s'inquiète de plus en plus de l'insécurité de l'autre côté de la péninsule en mer Rouge. Les attaques de Houthis contre des navires étrangers menacent directement l'usine du monde et ses exportations vers l'Europe. Ces manœuvres militaires visent à maintenir la sécurité maritime dans le secteur et la Chine compte aussi sur l'influence des Iraniens, considérés comme proches des rebelles yéménites. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Les députés européens en lutte contre le greenwashing, ou plutôt l'éco-blanchiment en bon français. Ils ont adopté tout à l'heure un texte qui limite le recours aux formulations du type 100% naturel ou bien un produit respectueux de l'océan sur les étiquettes dans nos supermarchés. La vérification devrait être systématique sur 150 allégations vertes examinées par Bruxelles en 2020. 53 contenaient des informations ambiguës ou bien trompeuses. Dans le Gard, les gendarmes, les pompiers, les sauveteurs aquatiques poursuivent leurs recherches. Un enfant de 13 ans est toujours porté disparu. La voiture de sa famille emportée par les flots samedi. Le corps de sa sœur de 4 ans a été retrouvé à la mi-journée par les secours. Il reste reste deux départements. Vigilance orange au cru, il s'agit de la Charente-Maritime et de la Gironde.
Et s'il fallait arrêter de financer les établissements privés pour aider davantage l'école publique?
Oui, c'est en substance l'appel lancé par un collectif de défense de l'école publique laïque, des syndicats d'enseignants, d'étudiants, des associations, 26 organismes au total qui s'étaient rassemblés tout à l'heure pour présenter leurs actions au cours d'une conférence de presse. Bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Vous y étiez pour France Inter et on a rarement l'occasion de voir une telle unité lorsqu'on parle de l'école.
Oui, la photo était surprenante, inédite, des responsables syndicaux aux positions diverses assis les uns à côté des autres, tous unis au secours d'une école publique qui va mal, pendant que l'école privée reçoit des financements publics sans réelle contrepartie, pas d'obligation de mixité scolaire, des cours par exemple d'éducation à la sexualité qui ne sont pas toujours assurés dans les établissements privés. C'est inacceptable pour Grégory Frakoviak du syndicat SNES-FSU.
L'État finance un enseignement qui est scolairement et socialement ségrégatif. Certains diraient séparatiste. Nous avons donc réussi à construire un périmètre très très large, 26 organisations qui disent stop, ça suffit. L'urgence impose que l'argent public aille à l'école publique. C'est la seule école qui est partout sur tout le territoire et c'est la seule école qui incarne complètement tous les principes de la République.
La solution pour ce collectif, arrêter de financer l'enseignement privé sous contrat et récupérer 9 milliards d'euros. Frédéric Marchand de l'UNSA Éducation.
Nous, on veut que l'argent public, à terme, aille uniquement au financement de l'école publique, laïque, obligatoire. C'est ça notre objectif.
Les familles doivent pouvoir choisir d'aller dans l'enseignement privé, disent-ils, mais pas grâce au financement de l'État. Tous ces syndicats et associations se défendent de vouloir raviver la guerre publique-privée, mais ils vont mener campagne sur ce thème et organiseront des réunions, des débats pour alerter les enseignants, les parents et les élus.
Merci Sonia Princé, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter. Ils ont ressorti les robes, les costumes, les alliances, les coupes de champagne. Les mariés ont été encore nombreux. L'année dernière, 242 000 unions célébrées en 2023 comme en 2022, selon les chiffres publiés ce soir par l'INSEE. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Chiffre relativement élevé. Plus élevé en tout cas qu'avant la crise sanitaire.
Oui, parce que la pandémie de Covid avait provoqué une chute impressionnante. Difficile, on s'en souvient, de réunir sa famille, ses amis en 2020. Résultat, 155 000 mariages cette année-là. Un peu plus en 2021, environ 200 000. Et un retour au niveau d'avant la crise, dès 2022. Avec, vous le disiez, 242 000 mariages. Donc, tout comme en 2023, c'est un peu plus que la moyenne des années 2009-2019. Un retour à la normale qui ne compense donc pas tout à fait les mariages qui n'ont pas eu lieu pendant la crise sanitaire. Les PACS aussi sont en hausse. 210 000 pactes civils de solidarité conclus en 2022 et 2023. Une hausse donc après cette chute liée au Covid. La courbe des PACS se rapproche d'ailleurs de celle des mariages. Et puis un autre enseignement de cette publication de l'INSEE, on se marie de plus en plus tard. En moyenne en 2022, les femmes se marient à un peu plus de 37 ans, quasiment 40 ans pour les hommes. C'est 3 ans de plus qu'en 2012 et puis 3% des mariages unissent des couples de même sexe, une part stable depuis 2015.
Précision signée Rémi Brancato. Autre chiffre, il concerne cette fois le marché de la musique, en hausse de 5% l'année dernière en France avec un chiffre d'affaires de 968 millions d'euros. C'est bien, mais peut mieux faire, dit en substance le syndicat national de l'édition phonographique dans son communiqué, car l'essentiel des revenus provient du numérique. Or les Français reste réticent à payer pour un service de streaming. Le pays recense 12 millions d'abonnements payants, un taux de pénétration de 16% contre 30% par exemple aux États-Unis.
Bonsoir Jean-Philippe Thielet.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Centre National de la Musique. C'est vrai que l'essentiel du marché, c'est le numérique. Bien sûr, le streaming, on a vu les chiffres, mais comment on explique qu'on soit en retard, nous, en France? Est-ce que c'est qu'on rechigne à payer, tout simplement?
Je pense qu'en France, il y a une certaine tradition à considérer que la musique doit être gratuite. Or, elle ne peut pas être gratuite. Et puis, peut-être qu'il y a une évolution dans les usages, notamment chez les plus de 55 ou 60 ans, qui sont encore attachés au support physique. Mmh. Donc, il faut dire, répéter que les plateformes de streaming, c'est incroyable. On a la discothèque universelle, une universalité de choix pour quelques euros par mois. Et donc, il faut plutôt pousser les Françaises et les Français, les habitants de ce pays, à s'abonner, et quand on y goûte, on n'abandonne pas.
Comment on l'amène cette classe d'âge quand même vers la musique et le site, pas seulement j'imagine en leur disant vous avez tout ce que vous voulez là à votre portée de main, parce qu'ils le savent. Comment on arrive à les convaincre, plus de 55 ans et au-delà, ça fait quand même un sacré bout de la population, hein.
Oui, je pense que ce qui est très important, c'est naturellement la quantité de l'offre qui est universelle, mais c'est aussi l'éditorialisation, qu'est-ce qu'on met en avant, l'enrichissement de ce qu'on appelle l'expérience de l'utilisateur. Donc ça, c'est un travail à faire avec les plateformes de streaming qui bien sûr y réfléchissent. Et nous, au Centre National de la Musique, on est avec elles, avec les plateformes, pour que ce taux de pénétration soit plus élevé et qu'on rattrape le retard, notamment sur les pays anglo-saxons qui sont nettement en avance. Et si c'est le cas, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde parce que ça crée de la valeur, ça crée de la richesse.
Nous, on est à un tiers d'écoute toujours sur CD ou sur vinyle. Est-ce que ça a du sens, ça ? Est-ce que ça parle d'une génération ou c'est finalement pour vous à l'échelle assez minime ?
Non, je pense que c'est là aussi une question d'utilisation, parce que les plus gros utilisateurs de vinyle, c'est plutôt les plus jeunes. Et de fait, on peut écouter du CD, du vinyle, mais aussi, notamment pour découvrir des nouveaux artistes, des nouvelles œuvres, utiliser les plateformes. Donc c'est complémentaire. Ce qui est très important, c'est la diversité de la proposition.
Après, Jean-Philippe Thielet, vous avez des problèmes, j'allais dire des ennemis, n'exagérons rien, mais votre gros problème, non, c'est TikTok, au fond, la musique accélérée qui ne rétribue personne, mais qui est extrêmement prisée, là pour le coup, de la part des plus jeunes.
Oui, ce qui est très important, c'est que les acteurs de la musique enregistrée répondent à une offre légale, c'est-à-dire où les ayants droit, les artistes, les compositeurs, les interprètes, soient rémunérés pour leur travail qui est utilisé par d'autres, notamment par les plateformes. Et c'est vrai que du côté de certains réseaux, et notamment TikTok, où la musique est essentielle dans quasiment tous les contenus, on voit que les ayants droit, les labels, les artistes, les interprètes, n'y trouvent pas leur compte. Nous, au Centre National de la Musique, on n'est pas là pour pointer du doigt ou pour condamner, on est là pour améliorer le système, et ça va vite reste. Et donc, on est là pour travailler, y compris avec ces plateformes, pour aller vers quelque chose qui soit plus légal et plus respectueux des droits.
Et faire en sorte, effectivement, que les artistes, eux, soient rémunérés à leur juste valeur. Un petit mot sur cette taxe streaming, de 1,2%, Jean-Philippe Thielet, qui fait dire à Spotify qu'il augmente son abonnement de façon conséquente en France pour ces raisons-là. Ce 1,2, il est censé servir à quoi ? Est-ce qu'à la fin, ce sont les artistes qui sont gagnants ?
Je le crois, parce que c'est 15 millions d'euros, donc c'est finalement pas grand-chose. 15 millions qui vont être intégralement utilisés pour aider des productions. On produit beaucoup en France. Il y a des artistes qui ont énormément de succès, mais dans un marché qui croît énormément, il y a besoin de soutenir des nouveaux projets, des nouveaux artistes dans toutes les esthétiques, c'est la chanson, c'est le rap, etc. Et donc ces 15 millions, ça va servir à ça, et aussi au développement international, à organiser des tournées, à être présent dans les salons musicaux, à signer de nouveaux contrats. 100% du produit de cette taxe est utilisé pour les acteurs de la musique, et notamment les artistes.
Un marché qui croît, vous dites, ce sera la dernière question, Jean-Philippe Thielet, on reste quand même dans le monde de la musique, à la moitié de ce qu'était le chiffre d'affaires d'il y a 20 ans, avant 2002, avant l'effondrement. Est-ce qu'on se dit qu'on ne retrouvera jamais ces chiffres-là, jamais ces chiffres aussi hauts, et il faut s'y faire?
Non, je crois qu'on les retrouvera. Ce qui est la question essentielle, c'est quelle sera la place de la France, des artistes français, des labels, des entreprises dans cette compétition mondiale. Et c'est vrai que on a un marché qui croît très très fort, et que si on ne fait rien, si on reste les bras croisés, le marché va écraser cette diversité. C'est pour ça que le service public s'en mêle. Et je rappelle que le Centre National de la Musique n'a même pas 5 ans. Et donc c'est une problématique qui est assez récente, et il faut se battre dans ce marché hyper concurrentiel qu'est la musique mondialisée.
Jean-Philippe Thielet, président du Centre National de la Musique, avec nous dans le 18h. Merci beaucoup. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi cette œuvre monumentale, 3 mètres de haut, 9 mètres de large, pour célébrer les Jeux Olympiques. Une tapisserie signée de l'artiste Marjan Satrapi a été dévoilée tout à l'heure à la Manufacture des Gobelins à Paris, et vous y étiez. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir à tous.
Alors à quoi elle ressemble, cette grande tapisserie ?
Eh bien, c'est une célébration très pop, très colorée de Paris et du sport. Une esthétique manga, on va dire assez éloignée quand même du style de Marjan Satrapi dans ses bandes dessinées. Et ce matin au Gobelin, on a assisté au tombé de métier de la tapisserie. C'est un moment d'émotion, bien sûr pour les liseuses et pour Marjan Satrapi, qui du coup à ce moment-là a découvert sa tapisserie et qui a eu l'honneur de couper les fils.
La première partie, je me suis basée sur l'affiche de l'Olympique de Paris de 1924 où vous avez un homme, un lanceur de javelot qui jette le javelot de droite à gauche. Et donc là, j'ai mis une femme en la retournant et justement le javelot est de gauche à droite, ce qui veut dire on regarde vers le futur. Donc la pièce centrale, évidemment, il y a un homme et une femme avec le skyline de Paris. Et en dernier, les nouveaux sports que j'avais fait moi-même. J'ai fait beaucoup de skateboard quand j'étais enfant. Et le hip-hop, chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a fait un peu de breakdance.
Mais oui, tout le monde a pratiqué la breakdance, Fabien, n'est-ce pas? Et puis, ce sont aussi des valeurs qui ont été tissées. Marjane Satrapi.
C'est quand même extraordinaire le sport parce que tous les 4 ans quand même, les pays du monde entier, au-delà de leurs différences, et faire des compétitions sans pour autant nous tuer les uns les autres, et on peut être fraternel.
Alors pendant les JO, la tapisserie va être exposée sur le mur du musée de la Marine, place de la Concorde. Ensuite, elle va rejoindre le musée du sport à Nice.
Merci Isabelle Pasquier du service culture de France Inter.
Merci Céline Aslo pour le journal. Vous reviendrez faire du hip-hop dans Un jour dans le monde avec Sous les radars dans un petit instant. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Élodie Calac, bonsoir. Température en hausse demain.
Oui, bonsoir à tous. En effet, demain matin, souvent 6 à 10 degrés, 2 à 5 des Pyrénées vers le Massif central. Et puis l'après-midi, on aura 14 à 16 degrés au nord, 16 à 19 degrés du Massif central à l'est du Rhône. Belle hausse sur le sud-ouest avec 19 à 21 degrés, les 21 du côté de Biarritz.
Et le réveil sera souvent gris.
Oui, beaucoup de nuages le matin avec des brouillards fréquents sur le sud-ouest, encore un peu de pluie sur le nord-est, mais du soleil sur les Pyrénées, les Alpes, la Corse et autour de la Méditerranée avec toujours un petit peu de mistral. Et puis l'après-midi, les nuages garderont l'avantage sur un grand quart nord-est, mais des éclaircies appréciables reviendront du nord-ouest jusqu'au Lyonnais. Et c'est bien le soleil qui s'imposera de la Vendée et du sud-ouest vers la Méditerranée et les Alpes.